Le journal en français. Jacques Martin.
Bonsoir, tout de suite les sommaires du journal. Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères belge, appelle l'ONATRA à accélérer la finalisation du dossier relatif à la cogestion du port de Matadi. Il a fait la demande à Matadi à l'issue de sa visite dans ce port. À Boutembo, l'abbé Malumalu, président de la CEI, appelle le membre de la commission à faire preuve de neutralité et d'impartialité dans l'application de leurs tâches et garantir ainsi la crédibilité des élections en République démocratique du Congo. Et puis, deux cas suspects de fièvre hémorragique virale dont un décès ont été signalés par l'Organisation mondiale de la santé en ce début de mois à Nagero, dans la province orientale. Déjà, les personnels de santé se mobilisent. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir. Karel De Gucht, aujourd'hui à Matadi. Il a appelé le responsable de l'ONATRA à accélérer la finalisation du dossier relatif à la cogestion du port de Matadi dans le cadre du partenariat entre ce port et celui de Anvers. Appel lancé ce dimanche à l'issue de sa visite dans ces ports. On l'écoute au micro de Emmanuel Imbanda.
Ce que nous offrons, c'est une coopération entre ce port et le port dans la gestion, une cogestion pour les faire vraiment que le port se développe. Pas seulement sur le plan infrastructurel. Donc je fais un appel sincère. Ce n'est pas un appel qui est inspiré par des ambitions hégémoniques ou par des ambitions financières, mais un appel à l'ONATRA vraiment finaliser ce partenariat aussitôt que possible, de sorte qu'on puisse également donc, avoir les fruits de ces investissements. Parce que je crains que si on n'organise pas proprement vite la gestion, que finalement les fruits de ces investissements seront inférieurs à ce qu'on pourrait en attendre. C'est un appel chaleureux, mais quand même avec une certaine insistance de démarrer et donc d'aller de l'avant, de travailler ensemble à l'avenir de ce port.
À Boutembo, où se trouve l'abbé Malumalu, président de la commission électorale indépendante, ce dernier appelle le membre de la commission à tout le niveau de faire preuve de neutralité, d'impartialité dans l'accomplissement de leur mission pour les prochaines étapes électorales en RDC. C'était à l'issue d'un atelier d'évaluation des opérations d'identification, d'enrôlement et des activités référendaires dans le Nord Kivu. Le point avec Étienne Mouindo.
Dans sa marche vers la tenue d'élections libres et démocratiques et transparentes, le bureau de représentation provinciale Nord Kivu a mené ses opérations dans les temps impartis et la MONUC a disponibilisé ses avions pour acheminer les kits référendaires dans les endroits les plus reculés. Mais comme l'a reconnu M. l'abbé Malumalu, président national de la commission électorale indépendante, le plus dur reste à faire, c'est la phase électorale proprement dite. M. l'abbé Malumalu a interpellé les participants à cet atelier à plus de courage, de patriotisme et de sacrifice, plus, beaucoup plus de professionnalisme pour éviter la lenteur. À travers ses agents, la CEI doit garantir une élection libre, correcte et équitable, a insisté M. l'abbé Malumalu, avant d'exhorter les membres de la commission à tous les niveaux de faire preuve de neutralité, d'impartialité et d'accomplissement de leur mission. Etienne Mwindo, Boutembo, Radio Okapi.
Toujours en rapport avec les élections, à Mbujimayi, les femmes kassayennes sont sensibilisées pour leur implication dans les prochaines élections en RDC. Au cours d'une journée de réflexion organisée ce week-end par l'Union pour la promotion de la femme au Congo, IPROFEC en sigle, un appel a été lancé aux femmes pour qu'elles jouent un rôle actif dans la politique du pays. Des détails avec Billy Evan Lutumba.
Au nombre des critères définis par l'UPROFEC pour qu'une femme soit éligible aux prochaines échéances électorales, la connaissance solide des réalités de la province du Kassai oriental, la probité morale irréprochable, compétences intellectuelles et culturelles suffisantes. Ces critères ont été définis après avoir suivi trois exposés axés sur la mission de la femme, selon la vision des ancêtres, celle des dieux, et enfin sur l'historique de la carrière politique de la femme congolaise. Il a été relevé que beaucoup des femmes ont occupé des postes des responsabilités sans aucune compétence valable. C'est pour cette raison que les participantes venues des diverses associations de la place ont mis un accent particulier sur la compétence de la future femme éligible. Pour Brigitte Mbombo, présidente de l'UPROFEC, l'objectif de ce genre de journée est de susciter l'esprit de leadership et d'éveiller la conscience de la femme kassayenne. Déjà, quatre femmes se sont prononcées pour la députation et une pour le poste de bourgmestre dans la ville de Mbujimayi. Billy Van Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
18h05 à Kinshasa, une heure de plus dans la province orientale. Dans la localité de Nagero, deux cas suspects de fièvre hémorragique virale, dont un décès, ont été signalés par l'Organisation mondiale de la santé en ce début de mois de février. La situation préoccupe les services sanitaires de la province. Une équipe d'experts et du matériel nécessaire sont déjà déployés dans la localité. Le point avec Dorcas Kankou.
Selon le médecin inspecteur provincial, un seul cas suspect de fièvre hémorragique suffit pour alerter le personnel médical. La même source affirme que l'affaire remonte au 1er février. Un premier malade avec les symptômes de la fièvre hémorragique, soit vomissement de sang avec hémorragie nasale et sel avec sang, accompagné de la fièvre, arrive au centre de santé Nagero. Deux jours après, ce même centre reçoit une jeune dame avec le même tableau clinique. Elle meurt 4 heures après son arrivée au centre. Docteur José Bafoua, médecin inspecteur provincial, nous parle des actions en cours.
Cette situation-là nous a amené à dépêcher une équipe composée de nos amis de l'antenne de l'OMS Isiro et l'équipe des districts sanitaires d'Isiro sur place. Et on a amené du matériel de protection. On a isolé les cas qui est resté, donc de ces jeunes hommes. On a sensibilisé la population et le personnel soignant. Et on a disponibilisé des outils de gestion de surveillance des cas au niveau des structures de santé. On a fait également les prélèvements et pour le moment, l'échantillon est en route vers les labos spécialisés.
L'équipe médicale sur place doit également surveiller toutes les personnes qui ont été en contact avec les deux cas suspects. Rappelons qu'une épidémie de fièvre de Marbourg avait secoué 3 ans durant, soit de 98 à 2000, la localité de Durba dans cette même région. Le bilan faisait état de 150 cas, dont 128 décès, tel qu'indiqué par l'Organisation mondiale de la santé. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Kapi.
À Kindu, plus de 11 000 dollars américains destinés à la prise en charge des malades ont été volés de la caisse de l'hôpital de référence de cette ville. Notez que c'est pour la deuxième fois en l'espace d'un mois que l'argent est volé des caisses de cet hôpital, appuyé par l'ONG Merlin. Plus de détails avec Mami Alili Chibangou.
C'est le deuxième vol du genre qui connaît en moins d'un mois l'hôpital général de référence de Kindu. 8 000 dollars américains avaient disparu de la caisse en décembre dernier sans qu'il y ait casse. Cette fois-ci, c'est le même spectacle. Mardi dernier, après les contrôles physiques de la caisse par le médecin directeur de l'hôpital, toute la situation financière était intacte jusqu'au lendemain, les mercredis donc vers 15 heures locales. Une heure plus tard, quand la caissière avec le médecin directeur voulait sortir de l'argent pour les dépenses des cartes prépayées, c'est alors qu'ils constateront la disparition seulement de l'enveloppe qui contenait les billets de dollars, comme les décrit les médecins directeurs, les docteurs Faustin Lady.
C'est lorsqu'on a signé les bons de sortie d'argent que la caissière se rendra compte, quand elle a ouvert son coffre, qu'il y a eu disparition des 11 471 dollars. Madame, je vous dis qu'il n'y a pas eu casse, ni était la circonstance. Il y a fait assez que les gens aient cherché l'argent au niveau de la caisse. On ne pouvait pas savoir s'il y a eu vol.
Un jour plus tard, la police a été saisie du problème et une enquête a été ouverte pour avoir les traces de la disparition de cette somme de la caisse. Mais jusque-là, rien n'est ressorti de cette enquête comme auparavant. Notons que l'argent en question est épargné pour le financement des activités de l'hôpital lorsque le bailleur l'ONG Merlin arrêtera son appui. Ce phénomène mystérieux est l'une des conséquences du non-fonctionnement des banques et établissements financiers à Kindu. Mami Alili Chibangou, Kindu, Radio Kapi.
Alikassi, à 120 km de Lubumbashi, une semaine après la grève déclenchée par les infirmiers, la direction de l'hôpital de référence de cette ville fait appel au service des étudiants, le troisième gradué ISTEM Likassi, pour soigner les malades. Rappelons que les infirmiers en grève réclament le paiement de la prime de risque aux promis par le gouvernement. Écoutez ici le docteur Jean-Jacques Mpoyou au micro de Colin Djuma Moussompo.
Parce que tous les médecins sont mobilisés, ils travaillent 24 heures sur 24 à l'hôpital, ils passent même nuit à l'hôpital. Mais ces étudiants nous aident tout simplement à accueillir les malades et appeler le médecin, parce que le médecin ne peut pas en même temps accueillir les malades et établir les fiches. C'est parce que nous avons, en plus des médecins, il y a aussi les responsables des infirmiers, et ils ne sont pas partis en grève. En tant que responsables, ils ne pouvaient pas partir en grève. Et quand même, ils nous aident à travailler un peu, à prendre en charge certaines maladies. Même les premiers soins là, comme il y en a qui savent injecter, ils peuvent injecter, mais sous toujours la coordination des. Ils ne peuvent pas même placer les perfusions sans la présence des médecins. Nous sommes toujours à leur côté.
À Bougnard, arrivée d'une centaine de déplacés de guerre. Ils proviennent de Eringeti et de Oïcha, à une trentaine de kilomètres de Béni. Depuis 2003, ces populations avaient fui leur village suite aux affrontements interethniques de l'Itouri. Le point avec Isaac Rémo.
Au total, 37 familles sont rentrées jeudi dernier à Bougna environ 3 ans après, ce qui porte à 300 le nombre de familles déjà retournées à Bougna depuis le 16 janvier dernier. Le retour est facilité par une ONG internationale dénommée Solidarité qui assure leur transport par route. Les mauvaises conditions de vie seraient à l'origine du retour de la plupart d'entre eux. Pour survivre, se déplacer devait notamment travailler dans les champs des autres ou piler les maniocs. Quelques déplacés témoignent. Là, on donnait des farines de maïs. Dernièrement, on donnait plus de maïs. Nous vivions des par jour. Nous pilions des noix, des palmes pour avoir 1 kg, 50 francs, qui nous permettait de vivre. Et aussi, on allait travailler dans les champs et on nous aidait avec des bananes, des nyams. Il était devenu difficile de trouver de quoi manger. C'est pourquoi nous avons décidé d'y rentrer. Nous recevions seulement un peu de feuilles de sombé qu'on préparait pour les enfants. Une fois arrivés à Bougna, ces déplacés sont prises en charge par des ONG internationales, à l'occurrence Agro-Action Allemande et Première Urgence. Ces partenaires de solidarité remettent à chaque famille 43 kg de farine de maïs, 13 kg d'haricots, de l'huile végétale et du sel, en plus d'un bâche, d'un bidon et des ustensiles de cuisine. Ils sont encore une centaine qui attendent leur retour à Bougna. Isaac Raymond, Bougna, Radio Okapi.
Dans la province du Bandundu, une femme acquitte se trouve au cachot de la police criminelle et elle attend son transfert au parquet de grande instance de Kikwite. Cette femme est accusée du meurtre de son bébé. Fabien Kambizi pour le reportage.
22 ans, c'est l'âge de la fille poursuivie de meurtre de son bébé par la police criminelle de Kikwite. En effet, après avoir accouché d'un enfant en bonne et due forme, mademoiselle décidera de mettre fin à sa vie pour des raisons non encore connues. C'est la version des faits donnée par le commissaire principal Kankou, commandant de la police criminelle. L'incriminé que nous avons rencontré au commissariat de la police criminelle nie les faits, mais reconnaît que son bébé était mort de suite d'une forte fièvre en route pendant qu'elle venait à Kikwite en provenance de Kwenge avec un autre enfant. Incapable de supporter et le cadavre et l'enfant vivant, elle a préféré enterrer le cadavre. L'affaire suit son cours normal. Le dossier sera transféré au parquet près le tribunal de grande instance de Kikwite. Kikwite, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les jeunes de différents quartiers de la ville de Bukavu se mobilisent pour lutter contre l'insalubrité. Ils effectuent des travaux communautaires tous les dimanches les longs des avenues et des grandes artères de la ville, soutenant ainsi l'opération Bukavu Ville Propre lancée il y a plus de 2 mois par la mairie de cette ville. Reportage de Jean-Baptiste Tonga.
Nous sommes dans le quartier Nyawera, sur avenue du gouverneur, dans la ville de Bukavu. Plus de 100 jeunes filles et garçons s'emploient à déboucher les caniveaux, à balayer la route et à évacuer les épaves des véhicules le long de la route. Ces travaux sont très importants pour plusieurs raisons, comme l'indique le représentant des jeunes du quartier Nyawera.
Yves Biganiro, les travaux, c'est pour la propriété de notre quartier et la propriété de notre ville en général. Et nous sommes là dans le cadre de sensibilisation de toute la jeunesse, comme l'avenue Mimose, Nyawera, avenue du gouverneur, Fizi, Niof aussi.
Les jeunes du quartier Nyawera bénéficient de l'appui moral et matériel de la mairie de la ville, mais cela ne suffit pas compte tenu de l'ampleur du travail.
Nos moyens sont tous limités à tout le matériel.
Nos moyens sont limités. Nous n'avons pas de matériel. Nous sommes dans le cadre de sensibilisation et mobilisation. Il faut l'implication de tous les jeunes et même de tous les parents pour la propriété de toute la ville en général. Les mêmes travaux s'effectuent par les jeunes d'autres quartiers dans les différentes communes de la ville. Cependant, ils se heurtent tous au problème de manque du matériel aratoire et à l'insuffisance des moyens d'évacuation des immondices et épaves des véhicules. Ils lancent un appel aux personnes de bonne volonté de leur soutenir tant soit peu dans leurs actions. Bukavu, Jean-Baptiste Tonga, Radio 4.
Dans la province de l'Équateur, une délégation de l'ONG AWF, African Wildlife Foundation, séjourne depuis ce week-end à Mbandaka. But de leur mission, évaluer les activités de l'ONG sur terrain. L'ONG vient de totaliser 2 ans dans la région de la Maringa, Lopori, Wamba au sud Équateur, où elle encadre les populations autochtones à sa prise en charge pour la conservation de la biodiversité. Écoutons John Klein, directeur des programmes régionaux et bailleur de fonds de cette ONG au micro de Béatrice Nabindi.
L'Équateur est une province très importante pour la biodiversité et le développement rural. Nous avons inscrit un programme à travers le leader AWF pour faire une inspection sur le terrain ensemble. So, donc, ils ont fait plusieurs projets, les micro-projets, les gros projets. Donc, nous sommes en train de faire un circuit dans tout l'Équateur pour regarder qu'est-ce que se passe sur le terrain. Dans le domaine de l'agriculture, l'amélioration de la vie des citoyens ruraux et même le programme de la conservation. Nous allons faire une évaluation de toutes les activités qui se passent et donc on va renouveler les programmes.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Paul Mwingelo, assuré par la coordination technique de Claude Bousset, Martin Sebou-Jangoué. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de Radio Okapi.